Entourage, présenté par Kevin et Larbi. Une bulle d'intimité sur Beta Série, la radio.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour ce quatrième numéro d'Entourage. Merci d'avoir été aussi nombreux à réagir et aussi nombreux au rendez-vous de notre dernier numéro avec Patrick Stewart et le casting de Star Trek Picard, série à retrouver sur Amazon Prime Video. Je suis ravi aujourd'hui pour cette quatrième émission et avant de recevoir le casting de Queer as Folk dans un prochain numéro, de recevoir Marianne Chaillant, philosophe, auteur et professeur, afin de parler de son livre autour de Game of Thrones. Game of Thrones, une série sur laquelle j'ai beaucoup travaillé l'an dernier. Je vous ai proposé 23 heures de podcast. Je suis ravi dans Entourage de pouvoir reparler de cette série. Reparler de cette série avec une fin douce amère, une fin qui a déjà 8 mois. On va justement en parler avec Marianne puisque c'est tout le but de son livre. Bonjour Marianne.
Bonjour Kevin.
Merci beaucoup d'être ici. Alors, on s'était rencontrés lors d'une émission présentée par Charlotte Bloom au mois de mai dernier sur OCS, une émission dans laquelle nous parlions justement de cette fin qui venait d'arriver de Game of Thrones. Tu disais que tu avais beaucoup souffert pour cette fin et tu as décidé d'ailleurs d'en faire un livre juste après. Je te propose d'écouter une petite minute de cette émission justement OCS Story Série de Charlotte Bloom. C'est là où on s'est rencontré et ensuite tu nous diras si tu as les mêmes opinions que celles que tu avais il y a 8 mois.
Pour moi, s'il y a un personnage qui restera, c'est Arya, vraiment.
Et aussi parce qu'elle nous a un peu débarrassé du roi de la nuit quand même.
Oui.
Enfin, je veux dire, je pense que tout le monde, quand c'était on a regardé cet épisode, on a hurlé devant nos écrans. Déjà, il y avait une espèce de belle revanche féministe, je pense, de se dire, eh ben nous, on le savait depuis le début que ça allait être une fille et une jeune fille. Enfin, c'était un vrai moment héroïque.
Mais Arya, ouais. C'est ça le drame de la série.
Moi aussi,
j'ai dit Daenerys, je l'écoute parler, je me dis, ah oui, c'est vrai, c'est Arya. C'est ça, ils sont tellement passionnants, ces personnages, en fait.
Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette dernière saison ? Vous battez pas.
Alors moi, j'ai beaucoup souffert pendant la saison.
C'est terrible.
J'ai vécu des moments dont je pense que je me souviendrai.
Voilà, alors donc, tu disais que tu avais beaucoup souffert. Pourquoi à l'époque disais-tu que tu avais beaucoup souffert, Marianne ? Je tiens juste à dire, je salue la garde de nuit d'ailleurs, qui doivent être à l'écoute. Je sais que tu fais partie des rares auteurs, je te le disais hors antenne, qui est très appréciée par la communauté de fans de Game of Thrones. Une communauté exigeante, j'en sais quelque chose. Mais voilà, tu fais partie des rares auteurs qui sont appréciés. Il y a eu j'ai eu des très bonnes réactions quand ils ont su que tu venais. Pourquoi disais-tu que tu avais beaucoup souffert à l'époque ?
Bon, déjà, c'est un honneur que tu m'apprends d'être appréciée comme ça par la garde de nuit. Pourquoi j'ai souffert ? On s'est rencontrés, je viens de vérifier la date, le lundi 20 mai. C'était dans l'après-midi et ça faisait quelques heures que je venais de découvrir le dernier épisode que j'avais dû regarder assez tôt puisque j'habite Marseille. Et je venais à Paris d'abord chez Combini, j'allais faire une émission qui s'appelle Le débrief de fer, qui était aussi consacrée à la saison 8. Et puis après, on s'est rencontrés chez OCS. Et le dernier épisode, en fait, finalement, m'a achevée, mais d'une douleur que je ressentais depuis le début de la saison 8. J'avais même, il faut dire à quel point j'étais déprimée. Je crois que l'avant-dernier épisode m'avait bouleversée puisque je suis assez fan du personnage de Daenerys. Et quand j'ai vu Daenerys brûler méthodiquement les rues de King's Landing, c'est vrai que ça m'a. Bon, c'est au-delà de l'émotion. J'étais en colère vraiment sur ce que les scénaristes semblaient faire de son personnage. C'était pour moi insupportable. Du coup, alors que je vivais dans la peur, panique, comme tous les fans de Game of Thrones, de me faire spoiler, j'ai cherché, quand j'ai appris que l'épisode avait fuité, le dernier, du moins son scénario, j'ai cherché la veille au soir de sa diffusion, et j'ai trouvé un résumé que j'ai lu, et dans lequel on apprenait que Cersei mourait sous un éboulis du château, que Bran montait sur le trône, et que Daenerys se faisait poignarder par Jon. Je me suis dit, ça peut pas être vrai, surtout la montée de Bran sur le trône. Je me suis dit, bon, ça doit être un faux qui circule sur Internet. Mais le fait même que je cherche montrait à quel point j'avais décroché. Et au petit matin, quand j'ai découvert l'épisode, enfin dans la nuit, quoi, quand j'ai vu les premières images, je me suis dit, bon, c'était pas un faux, en fait, c'est vraiment ce qui va se passer, c'est vraiment ça. Et je soupirais, je me dis mais quelle horreur. Et je pense, j'ai lu après les réseaux sociaux et j'ai vu que mon sentiment n'était pas du tout singulier et qu'on était nombreux à partager cette colère sur le sort des personnages qu'on aimait tant. Et dans le train, j'étais dans un état d'hébétude. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire? Comment donner du sens à ce qui me paraît d'abord n'en avoir aucun? Donc j'étais quand même assez embarrassée. Non seulement ne pas avoir de sens, mais en plus, ça allait au-delà. C'est que j'étais furieuse. Je voyais ce qui s'écrivait sur Internet. C'était exactement ce que je ressentais. Et puis, je me suis dit, bon, et si j'essayais, puisque je suis professeure de philosophie, je me suis dit, est-ce que si j'essayais de sortir de l'émotion que je ressens pour essayer de passer dans le régime de la raison et essayer d'analyser rationnellement ce qui s'est passé. Je me suis dit, faisons le pari, quand même, ce qui est un pari qui me semble légitime, du sens, c'est-à-dire faisons le pari que les gens qui sont aux commandes de cette série, et auxquels je dois tant, quand même, n'oublions pas les gens que l'on aime le jour où ils nous déçoivent, et si je faisais le pari que cette fin était signifiante, même si je ne m'en aperçois pas moi-même. C'est vrai, j'ai lu que George Martin a été moins engagé dans...
Beaucoup moins.
Mais tout de même, je me suis dit, il n'a pas pu ne pas donner les clés essentielles à Benioff et Weiss. C'est pas possible, il a dû dire...
Ils sont les deux showrunners donc, de Game of Thrones.
Voilà, donc il y a quand même... Voilà, donc je me suis dit, il doit y avoir du sens. Et si je suis partie de cette idée, qui était contraire à mon sentiment, il y a du sens. Et il a fallu trouver lequel. Et la clé m'a été donnée précisément par cet élément, enfin la clé, celle qui m'a permis à moi de me réconcilier avec la série, précisément par ce qui m'accablait le plus, à savoir la montée de Bran sur le trône. C'est en donnant du sens à l'accession de Bran que j'ai pu donner du sens à ce qui me paraissait n'en avoir aucun.
Alors, c'est toute la problématique, hein, justement, de ton livre, hein, Game of Thrones, une fin sombre et pleine de terreur, que vous pouvez retrouver aux éditions des Équateurs. On va en parler, justement, tout à l'heure. N'allons pas, n'avançons pas trop vite. Ce qu'on va faire, puisque là, on est en train de parler de différentes choses de cette fameuse saison 8, ce que je propose, même si je sais que beaucoup de fans de Game of Thrones sont à l'écoute, en embrassant, évidemment, nos amis d'OCS, c'est justement d'écouter cette bande-annonce de cette saison finale de Game of Thrones. Puis après, justement, j'avais quelques questions par rapport aux problématiques de ce livre-là et à cette fin douce amère que tu évoques à chaque page. On écoute la bande-annonce Game of Thrones et on se retrouve avec Marianne juste après.
I know death. He's got many faces. I look forward to seeing this one.
Everything you did brought you where you are now. Where you belong. Home.
They're coming. Our enemy doesn't tire. Doesn't stop. Doesn't feel.
I promise to fight for the living. I intend to keep that promise.
OCS, vous êtes fan, nous aussi.
Voilà, Game of Thrones, saison 8. Alors, Marianne, en lisant ton livre, je me suis posé une question, et c'est d'ailleurs, à l'époque, la question que je m'étais posée également quand j'avais vu sur les réseaux sociaux tout cet émoi, c'est que, effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, George R. R. Martin n'était plus aux commandes, donc depuis deux saisons. de Game of Thrones pour finir un tome qui n'est toujours pas à l'heure de l'enregistrement de cette émission sortie. Et donc, il a laissé donc, les scénaristes aux commandes seules pour pouvoir terminer donc, cette fin avec tant d'heures commandées. Est-ce que, on a vu ça avec Le Seigneur des Anneaux, c'était une fin qui a été adorée par les fans puisque écrite auparavant, donc on avait le temps auparavant de faire son deuil puisqu'on savait comment on allait quitter ces personnages-là. On avait également le temps de faire le deuil pour les fans de Harry Potter, par exemple. Or, Game of Thrones, ces deux dernières saisons-là, nous ont laissé dans une expectative, un expectative totale, et chacun pouvait avoir sa propre vision et imaginer comment il allait pouvoir faire son deuil. Ne penses-tu pas que les fins sont toujours douces amères, et le revoir à des personnages toujours douces amères, quand, auparavant, rien n'est écrit pour nous préparer à ce qu'on va voir? Est-ce que cette déception n'est pas, au final, le simple fait de dire au revoir à des personnages qu'on a tant aimés, avec une fin qu'on a tous imaginée, mais qui forcément ne comble pas les attentes de tout un chacun?
Évidemment, il doit y avoir une dimension de deuil qui peut expliquer cet émoi qui nous a parcouru, nous les fans. Évidemment, il y a de ça. Dire au revoir aux personnages. D'ailleurs, je ne sais pas ce que tu as ressenti, mais je me rappelle les premières images quand l'armée de Daenerys arrive à Winterfell dans l'épisode 1. Je sais, j'étais dans le même état. Je pense que le petit garçon qui court, c'est le prologue,
tout à fait.
J'étais vraiment dans cet état. Je voulais enfin on les retrouver nos personnages et on les voyait passer les uns après les autres et on avait peur d'ailleurs. On se disait mais qu'est-ce qui va leur arriver? Quel sort leur sera réservé dans cette saison-là? Donc on avait effectivement un enthousiasme qui peut expliquer le sentiment qu'on a ressenti. Mais je pense que ça va bien au-delà que ça. Si c'était uniquement ça, j'ai pas d'exemple qui me vient à l'esprit. Mais c'est sûr qu'il doit y avoir des séries ou des films comme ça.
Parlons de Star Wars récemment, par exemple.
Oui, alors, Star Wars, je suis un peu vieille. Et moi, je me rappelle surtout de ce qui m'a beaucoup plu. Ben, c'est vrai, tu as raison. Quand Anakin Skywalker, on comprend pourquoi il devient Dark Vador.
On va en parler tout à l'heure, parce que ça ressemble beaucoup à Daenerys.
Bon, ce qu'il y a, c'est qu'on sait qu'il va le devenir. La seule question, c'est comment. Mais on sait qu'il va le devenir. C'est la différence.
Tout à fait.
Alors, pour Game of Thrones, je pense que ça va au-delà. Je pense qu'on a vraiment été, comme tu l'as dit, chacun d'entre nous, derrière son écran, imaginé, parce qu'au fond, la question qui se posait, c'est qui va monter sur le trône de fer, qui sera sur le trône à la fin de la série. Et chacun d'entre nous plaidait finalement ou soutenait une valeur philosophique, presque, à travers le personnage qu'il défendait. La question est, tu te rappelles cette scène peut-être où Tywin Lannister est avec Tommen Baratheon devant le corps de Joffrey et il lui pose cette question, il lui dit « À ton avis, quelles sont les vertus qui font un bon souverain ?»
Tommen étant lui dans le deuil d'avoir perdu son frère.
Et Tommen étant amené à être le prochain roi et Tywin est en train de lui donner une leçon de philosophie politique en lui disant « Qu'est-ce qu'il faut pour être roi ?» Et Tommen essaye plusieurs réponses qui sont insatisfaisantes aux yeux de Tywin, mais nous, derrière notre écran, quand on choisissait un personnage, je pense qu'on répondait à cette question de Tywin et on disait, par exemple, ce qui soutenait Cersei Lannister, que la compétence essentielle pour avoir le pouvoir, c'est d'être machiavélique, d'être rusé, d'être certain, qui soutenait Jon Snow, disait, non, si on veut être un bon souverain, ce qui compte, c'est pas la stratégie, c'est la vertu. Bon, donc on avait chacun une thèse, finalement, à cette question de Tywin Lannister. Et je crois que notre déception, ça a été qu'on a tous échoué et que tous les scénarios rationnels qu'on pouvait imaginer ont échoué. Et on était vraiment déçus, y compris du sort des personnages qu'on détestait ou qu'on adorait détester. Je pense à... Moi, je l'aime vraiment passionnément, Cersei Lannister, mais je sais qu'elle...
C'est un personnage complexe, cette...
Elle est fascinante. Ah. Mais quand même, quelle déception. Quelle déception, Cersei. Moi, je me disais, mais elle est... Tu te rappelles quand elle fait exploser le scepteur de Baelor ?
Dans le dernier épisode de la saison 6.
Extraordinaire. Bon, c'est horrible d'un côté, mais quelle femme, vraiment. Elle est acculée, elle est seule, seule complètement, et elle retourne la situation comme ça, machiavélique. Et là, dans la dernière saison...
Avec ce plan de coupe sur un sourire, effectivement,
avec son verre de vin à la main.
Extraordinaire.
Et là, elle est à la même fenêtre, je ne sais pas si c'est la même, mais elle est encore à une fenêtre, elle contemple la bataille, et au lieu d'avoir prévu un scénario qui fera tomber son ennemi à coup sûr, elle est dans une espèce de passivité à dire oui, mais je suis sûre qu'ils vont détruire les dragons. Elle n'a pas de plan B. Elle est complètement dans le déni de ce qui est en train de se passer.
Peut-être une perte de toute perception, comme le fait si bien Shakespeare. Daenerys est peut-être pareil aussi. Cette folie du pouvoir, bien que très intelligente, peut corrompre chaque être. Daenerys est corrompue, Cersei est corrompue. Ils en perdent leur intelligence.
Oui, c'est une des leçons que j'ai voulu lire dans ce qui s'est passé. Mais moi, j'avoue que spontanément, j'ai eu une déception sur le personnage de Cersei, mais sur tous les personnages. Tyrion aussi, qui s'est révélé d'une intelligence de la stratégie politique tout au long de la série, comme Lord Varys d'ailleurs.
Effectivement, il devient idiot, elle lui dit « So you're a traitor or an idiot, tu es un traitor
voilà,
ou un
c'est
idiot,
ça.
Tout à fait. »
Où sont les plans de Tyrion, où sont les plans de Varys comment il essaye d'aider sa reine à s'imposer à Winterfell, comment il essaye de voilà, c'est... Donc il y a une déception qui va au-delà, je crois, pour revenir à ta question, qui va au-delà du simple fait d'avoir à dire adieu à nos personnages. On a été déçus vraiment du sort qui a été réservé aux personnages et de la solution qui a été donnée. Vraiment, Bran, quand même. C'est quand même une drôle d'histoire. Quel plan on a de Bran ? Quelle réplique qui font de lui un roi légitime ? C'est pas...
Ce n'est plus... Il faut pour voilà. Est-ce Bran ? Ce n'est plus Bran. Ça. Il passe deux saisons qu'il nous dit je ne suis pas.
Exactement.
Le frère Johnson, je ne suis pas.
Donc c'est et donc plus voilà. Non, mais donc je pense que notre déception, elle était liée à l'évolution des personnages et à ce qui se passait. Cette déception, je l'ai d'abord vécue comme un échec de la série. Je me suis dit cette série qui nous a toujours réjouis, qui nous a toujours comblés, voilà qu'elle nous déçoit aujourd'hui. Quelle tristesse. Avant de comprendre, ou du moins, en tout cas, de vouloir comprendre, que cette déception n'était pas l'échec de la série, mais sa réussite même, car je crois que telle était la volonté, en tout cas, philosophique de George Martin dans la série, dans la saga littéraire et dans la série, que de nous montrer une leçon assez triste, que tout est décevant. Et donc, la déception, ce n'est pas l'échec de la série, c'est sa réussite. Elle nous a fait expérimenter la thèse même qu'elle veut défendre. Nous avons ressenti derrière notre écran ce que George Martin veut nous dire à titre de sagesse. Il veut nous dire, soyez sans illusion. On pourrait paraphraser Mélisandre qui dit, la vie est sombre et pleine de terreur. George Martin nous dit, soyez sans illusion, la vie est décevante. Même Game of Thrones est décevant. Mais c'est triste comme leçon, c'est terrible. C'est-à-dire, ce qu'on aime, on aime cette série, est voué à nous décevoir. Et donc, je me suis dit, c'est une forme de réussite, finalement, de montrer que il n'y a pas d'amour qui ne soit décevant, il n'y a pas de personnage source d'espérance comme Daenerys qui, finalement, n'échoue. C'est très triste, mais je crois que cette leçon douce amère, puisqu'il avait annoncé, tu le sais, étant amateur de Tolkien, il avait annoncé sa volonté de faire une fin semblable à celle du Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire une fin douce amère. Alors moi, douce amère, on a réfléchi les uns les autres, hein, on se dit qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire. Et finalement, Bran, ça incarne parfaitement le doux amère, en ce sens que, non pas que ça soit un Stark, je crois pas du tout que ça soit ça, qui fasse la douceur de sa victoire, parce que... Comme tu l'as dit, est-ce que c'est encore un Stark, hein ? Ce n'est plus un Stark, ce n'est plus Bran, c'est la corneille à trois yeux. Non, alors ce qui est doux, à la limite, c'est que ni la tyrannie réelle de Cersei l'a emporté, ni la tyrannie possible de Daenerys l'a emporté. Donc on a ce monarque qui monte sur le trône. Bon, ça finit pas dans la tyrannie, quoi. Mais l'amertume, c'est que Bran n'est pas un humain, en fait. Donc, nous avons, les uns et les autres, derrière notre écran, cherché quel était l'humain capable de gouverner Westeros, enfin, le royaume des sept couronnes.
Pas être corrompu, il faut
voilà.
Quelqu'un qui
et,
ne
et
puisse
la,
pas
et,
être corrompu.
Et la réponse, c'est qu'aucun de nos personnages n'avait cette capacité, car, et c'est très triste, à la fois dans une vision politique, on va au-devant d'élections, là, le message de George Martin est assez terrifiant, personne ne fera l'affaire. Voilà, c'est-à-dire personne ne fera l'affaire. Même Daenerys Targaryen, qui semblait prometteuse, ne fera pas l'affaire. On se demande qui parmi nous sera quelqu'un de bien. La réponse est terrifiante. Personne. Donc, sur le plan moral, il y a un échec terrible des personnages, y compris les personnages voilà, vertueux, a priori, comme Jon, on va en reparler. Plus personne ne peut, à la fin de cette série, incarner la vertu. Et plus personne, à la fin de cette série, ne peut s'offrir comme une réponse possible à la question politique. Il n'y a pas d'issue. Sinon, la déception, c'est terrible.
Alors, je tiens tout de même à préciser que dans ce livre-là, puisque pour les gens qui... Le livre n'est pas sombre et plein de terreur. Il y a aussi de l'espoir, il y a aussi de l'optimisme. Tu parles de ces moments-là. Je tiens aussi, puisque moi, j'ai toujours tendance à voir le verre à moitié plein. Déjà, je tiens à préciser aux gens que s'ils veulent débattre avec nous de ce sujet, qu'ils n'hésitent pas à commenter avec le hashtag entourage, avec un S sur les réseaux sociaux, @MarianneChaland, @KevinElarbi, @BetaSérie. Dites-nous ce que vous avez pensé justement de ce que dit Marianne. Êtes-vous d'accord avec elle? Avez-vous justement quelques nuances à mettre, un petit peu d'optimisme, même si ce livre, je le dis, est optimiste, peut-être, il, oh, comme tout de
t'es,
même.
T'es gentil avec moi. Oh,
non, c'est vrai, il y a des moments de, moi j'ai trouvé, mais déjà, c'est un livre, je le tiens à le dire, hein, c'est un livre accessible, moi je l'ai lu en une nuit, et puis j'aime beaucoup ton travail de toute façon, donc je partais déjà, déjà conquis, mais non, moi j'ai trouvé que voilà, tu expliques pourquoi justement cette fin douce amère et je trouve qu'il y a quand même de l'espoir et puis au final tu vois aussi le verre à moitié plein un petit peu et pour nuancer un petit peu ce que tu dis moi personnellement c'est une saison que j'ai beaucoup appréciée. Je pense effectivement que beaucoup de travail ont été faits sur l'aspect technique de cette saison-là, notamment sur les épisodes 3 et 6. On en a du coup peut-être un petit peu perdu, on va en parler justement là dans quelques instants, toutes ces trames philosophiques de Game of Thrones et tous ces thèmes sous-jacent qui était traité avec de multiples lectures les saisons auparavant. Je trouve que les épisodes 3 et les épisodes 6 techniquement sont incroyables, mais les showrunners ont peut-être oublié que la force principale de la série était justement dans ses thèmes et dans ses dialogues, plus que dans ses immenses scènes d'action. Et à force de vouloir faire une bataille des bâtards sur fois 1000, on en a peut-être effectivement perdu ce petit sens philosophique de Game of Thrones. Néanmoins, je tiens, pour voir le verre à moitié plein, à préciser que certains des personnages pour lesquels, d'un point de vue personnel, je sais que dans mes podcasts Making of Thrones, beaucoup m'en ont voulu de ne parler que d'elle sur Twitter. Je sais que pour certains personnages que j'aime bien, les problématiques sont résolues. Et il y a de l'espoir. Arya...
Oui, c'est le seul personnage qui s'en sort bien.
Mais ça m'arrange bien.
Mais oui.
Donc j'étais très content. Juste avant qu'on revienne justement sur certains des thèmes philosophiques de Game of Thrones, puisque on s'est rencontrés après mes podcasts l'an dernier que je faisais avec OCS, donc je n'ai pas pu te recevoir. J'avais Sven Ortelli et Raphaël Antoven qui étaient venus pour Philosophie Magazine me parler de certains des philosophes qu'ils reconnaissaient dans Game of Thrones. Je vais te poser également la question, mais auparavant, j'aimerais qu'on écoute une scène de Game of Thrones. Il s'agit de cette, puisqu'on va beaucoup parler de Daenerys, comme c'est un personnage sur lequel tu as beaucoup travaillé, il s'agit de cette scène qui est pour moi le véritable début de la descente aux enfers de Daenerys. C'est lorsque Cersei fait exécuter Missandei devant elle. On écoute cette scène-là, je vais te demander de réagir sur cette scène après, et puis on va parler un petit peu de Socrate, de Machiavel et de Kant.
Si tu as une dernière parole, alors dis-la.
Voilà, terrible toujours d'entendre cette voix de Missandei, même en français, hein, je vous le rappelle, pour des obligations techniques et de droit, je suis obligé de passer plus de la moitié des scènes en français, mais vous aurez des scènes en anglais tout à l'heure, donc ne me criez pas dessus sur Twitter, s'il vous plaît, il faut penser aussi aux francophones. Elle écoute, es-tu d'accord avec moi? Mets-tu le début de la descente aux enfers morale dans cette saison, en tout cas de Daenerys ici, ou en tout cas ce qu'on dit en anglais, ce trigger, puisque ça fait bien longtemps qu'elle est... Que malheureusement les démons sont passés, lui font avoir beaucoup de séquelles. Mais mets-tu vraiment le trigger sur cet aspect très Anakin Skywalkerien justement à ce moment-là?
Alors, avant de répondre à cette question, je voulais juste dire, puisque tu invitais les auditeurs à réagir, ce que la théorie que je défends dans mon livre, en aucune manière, je prétends que ça soit la vérité ultime de la série.
Tu le dis. Hein,
voilà, je veux être clair, je ne possède pas le secret absolu des choses. J'ai écrit ce livre à deux titres, d'abord en tant que fan, et aussi à titre de professeur de philosophie. J'avais écrit un premier livre où j'essayais de montrer la philosophie présente dans la série, mais il s'arrêtait à la fin de la saison 5. ce livre, c'est la théorie que j'ai trouvée. Il a une vertu cathartique pour moi, en fait. C'est-à-dire, il essaye de me réconcilier avec quelque chose qui a tellement compté dans ma vie. Si ça peut servir à d'autres, quelle chance. Et si d'autres trouvent des scénarios différents pour s'expliquer la série, je le respecte complètement, vraiment. Revenons à cette scène terrible. Cette scène, pour moi, avant toute chose, elle manifeste non pas quelque chose qui survient à Daenerys, enfin... Cette scène, c'est l'échec dramatique de Tyrion. Ben, comment a-t-il pu se leurrer à ce point sur sa sœur ? Il s'avance sous les remparts et il croit quoi ? Mais quel échec, vraiment ? Alors qu'on se demandait, je ne sais pas si tu te demandais toi aussi, comme il y a une ellipse dans la saison précédente, au moment où Tyrion, après la rencontre dans les arènes de Fosse Dragon, il y a un moment où Tyrion se retrouve seul avec Cersei et,
tout à fait.
Et finalement, Cersei revient, accepte. Du moins officiellement, de rejoindre l'armée de Daenerys. Et entre les deux saisons, tu as dû toi aussi réfléchir à qu'est-ce qu'ils se sont dit tous les deux à ce moment-là. On imaginait un plan de Tyrion, quelque chose. Et là, il alors même qu'il s'est trompé sur sa sœur, il le sait, il a cru qu'elle enverrait son armée, il a vu qu'elle ne l'envoie pas. Et là, il croit qu'il va encore faire quelque... Mais quel échec. Daenerys, est-ce qu'il se passe quelque chose là ? Missandei lui envoie un message... Ce message, donc, Dracarys, elle trouve, je crois, la façon la plus directe et la plus efficace de lui dire le temps de la politique a échoué. Enfin, le temps du dialogue politique a échoué, il faut employer la force. C'est ça qu'elle lui dit. Avec Cersei, en tout cas avec Cersei, elle dit pas « brûle King's Landing hein, », elle dit « avec Cersei, pas de rationalité possible. Seule la force peut passer ». Et tu parles d'une descente aux enfers de Daenerys, et là... moi, je sais, j'ai lu que beaucoup considèrent que la folie était annoncée chez Daenerys Targaryen, qu'il y avait des signes, c'est une Targaryen, ce que d'ailleurs Tyrion va dire à Jon pour essayer de le convaincre de la tuer, il lui dit c'est sa nature, quel argument atroce, je sais pas ce que tu en penses, mais de donner une essence aux gens comme si on était par nature quelque chose, et d'ailleurs Jon à ce moment-là lui répond très bien, il lui dit si elle est ça, alors je le suis aussi.
Alors que l'un des thèmes de Game of Thrones étant la rédemption, ça m'a...
Oui, et puis la liberté, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce qu'elle est la fille de son père, alors quoi ? Elle est folle, qu'est-ce que c'est cet argument atroce, quoi ? Et donc, pour cette scène est terrible. Mais Daenerys, moi, je suis pas tout à fait d'accord, et je sais que ça fait pas l'unanimité. Alors peut-être que je n'y vois pas clair, car je suis aveuglée par mon affection pour elle. Mais il y a quand même une différence entre ce qu'elle nous avait montré par le passé, et qui, d'accord, pouvait être parfois un usage de la violence. Bien sûr, quand elle crucifie les maîtres, bien sûr, c'est un usage de la violence. Je dis pas qu'il est légitime du tout. Quand elle fait des actions comme ça, quand elle brûle le père et le frère de Sam Tarly, bien sûr que c'est un usage de la violence. Mais brûler des innocents, je veux dire, rien, y compris ce mot de Missandei, cette injonction à utiliser la force, ne peut expliquer le basculement de Daenerys. Ça, pour le coup, c'est quelque chose, je ne parviens pas, sinon à dire, c'était... Il fallait que Daenerys sorte de la scène pour que Bran puisse y monter. Il fallait que quelque chose arrive au personnage. La folie, bon, ok. En tout cas, si elle a été voulue, vraiment, enfin, si elle tient la route, je crois pas, je sais pas, il faudra en parler avec des psychiatres et des psychanalystes, ce que j'ai fait d'ailleurs, mais bon.
Il y a un doute, hein, juste dans cet fameux épisode The Bells, les cloches, il y a un doute quand même, il y a quelque chose qui. On dirait qu'elle. Elle va un petit peu encore comme Anakin Skywalker, désolé de cette comparaison, mais je sais que l'auteur Nicolas Allard sera... Il y a quelque chose quand même qui fait qu'elle, on voit dans son regard, ah, je lutte contre mes pulsions, il faut pas, et puis au final elle y va et après elle ne peut
pas accepter. Là vraiment, alors moi j'ai fait une lecture philosophique à ce moment-là où j'ai essayé de dire que dans la série... Il y a un chapitre du livre Le Prince de Machiavel où Machiavel dit que tout gouvernant a à choisir entre la voie de l'amour et la voie de la haine. En tout cas, c'est pas qu'il a à choisir, mais c'est qu'il a évité ces deux voies. Parce que s'il se fait trop aimer du peuple, il sera détruit. Et s'il se fait haïr du peuple, il sera détruit. Mais alors, comment asseoir son autorité si on peut ni l'asseoir sur l'amour, ni l'asseoir sur la haine? Alors, il faut choisir une voie qui est une ligne de crête entre les deux. Celle qui a incarné l'amour, et d'ailleurs Olenna Tyrell le rappelle à Daenerys, c'est sa petite-fille, Margaery, et elle lui dit d'ailleurs, il y a eu une discussion, je ne sais pas si vous vous en rappelez tous, où Daenerys, Tyrion, Yara et Larry Sand sont autour de la table à Père Dragon.
Première épisode de la saison 7, voilà, juste avant.
Ils se demandent qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on attaque directement ? Est-ce qu'on utilise la diplomatie ? Les deux guerrières sont là et disent à Daenerys, fonce. Et Tyrion lui dit...
You're a dragon, be a dragon.
Alors ça, c'est la chute de la scène. C'est Olenna qui dit à Daenerys... Tu sais qui a été la personne la plus aimée ? C'est ma petite fille. Et où elle est maintenant. Et elle utilise, elle est cendre. Précisément ce dont Tyrion ne veut pas que Daenerys soit la reine. Il lui dit ne sois pas la reine des cendres. Mais Olenna lui dit oui, mais la cendre, ça deviendra toi si tu choisis la voie de l'amour. Et pourtant.
Olenna est hopeless, a tout perdu à ce moment-là, elle a perdu tout ce qui lui donne force de vie.
Certes,
elle a perdu.
Mais c'est une femme aguerrie, quand même.
Et seule, et sans but, sans raison de vivre maintenant. La vengeance,
c'est pas rien.
La vengeance, tout ouais. À fait.
Et elle donne un conseil à Daenerys, et à ce moment-là, Daenerys choisit d'écouter Tyrion, qui lui propose la voie de la diplomatie. Le même Tyrion qui lui avait conseillé un certain usage de la violence quand, face à la rébellion des maîtres, il lui avait dit « va brûler la moitié de la flotte et puis sauve un des trois qu'il aille dire aux autres ce qu'il advient quand on s'en prend à Daenerys Targaryen ». C'était déjà un certain usage de la force. Mais là, il dit « va pas trop loin, choisissons la diplomatie ». Et elle a le choix entre l'amour et la voie de la violence. À ce moment-là, elle choisit la voie de l'amour. Voit qu'elle avait d'ailleurs choisi Aessos, et on a vu ce que ça a donné, puisqu'elle a eu à subir un certain nombre de rébellions. Elle va à Westeros par amour, elle va à Winterfell par amour. Elle aime, je crois, vraiment. Elle a un lien d'amour au peuple des Sept Couronnes. Elle se sent la mère, on l'appelle Missa quand même. Hein. Il y a des scènes de ferveur extraordinaires.
Dernière scène de la saison 3, tout à fait. Missa, incroyable, incroyable.
Et c'est pour ça, d'ailleurs, je pense que c'est de là que vient mon attachement à Daenerys. Et je pense que cette scène où on la voit sur le dragon, où elle hésite, cette scène terrible où on sent que tu parles de pulsion qui monte en elle, elle sent bien que la voie de l'amour a échoué complètement. Ce peuple de Westeros ne semble pas l'aimer. Tu te rappelles, je sais pas, mais l'arrivée, oui, de Daenerys, j'en parlais tout à l'heure. Là, quand elle arrive à Winterfell,
dans
ce silence,
tout à fait.
Et ces gens qui la regardent comme ça, la sauveuse quand même. Bon, hein, elle n'est pas obligée de venir les sauver. Elle pourrait rester tranquille sur son île. Hein, les morts ne nagent pas, comme l'a fait remarquer Euron Greyjoy. Bon, elle se déplace, elle vient.
Mais comme le dit Arya et Jon, les Nordiens n'aiment peu que les étrangers. Il faut voir comment. Mais okay. Regarde Mélisandre aussi. Et...
Oui, alors, Mélisandre, a priori, vient pas.
Pas Mélisandre, excusez-moi, Missandei, excuse-moi.
Missandei, ouais. Ah oui, ok.
Faut voir, oui, ils ont peur des étrangers, okay. Ils aiment rester.
Passons sur le peuple. Mais tu remarques que qu'est-ce qui va attirer la suggestion de ces gens de Westeros, c'est quand le dragon passe. Là, tout le monde commence à la considérer et elle sourit.
Elle sourit.
Et là, c'est déjà une annonce de ce qui va se passer à la fin. C'est-à-dire que la seule manière qu'elle a d'asseoir une autorité à la fin, c'est la crainte et c'est pas l'amour. Elle n'arrive pas à se faire aimer à Westeros. La seule chose qu'elle arrive, c'est la seule voie, c'est la.
C'était pas déjà le cas dans les premières saisons, cette fameuse scène justement où elle sort avec ses dragons justement sur ses épaules, où du coup tout le monde est.
Oui, il y a ça, mais tu vois bien qu'il y a toujours eu, il me semble, le lien d'amour qui a été. Au moins aussi important, il y a des gens qui, comment dire, comme Jorah ou comme d'autres, qui viennent à ses côtés, non pas du tout par crainte, mais Varys lui-même, quand il faut l'écouter parler d'elle, Tyrion, tous ces gens qui la choisissent ne la choisissent pas par crainte, mais par reconnaissance de sa valeur. Mmh. Et ce que je voulais, quand elle arrive après à Winterfell, l'accueil de Sansa, quelle horreur! Donc, je me suis dit que oui. Quand elle est sur le dragon, dans l'épisode The Bells, et qu'elle est sur le dragon, peut-être qu'elle revoit tout ça, cet accueil froid, cette réaction de Sansa, qui même après la longue nuit, plutôt que de dire « oui, quand même, merci, hein, tu nous as un peu aidés », dit « bon, finalement, c'est Arya qui a tué le roi de la nuit, on n'avait pas besoin de toi ». Bon, elle dit ça à Jon, hein, que c'est Arya qui a tout fait.
Dans cette fameuse scène du Starbucks.
Bon, donc... peut-être qu'elle pense à ça, peut-être qu'elle repense à la discussion avec Olenna Tyrell, Yara et Larya, et elle a perdu beaucoup. Est-ce que c'est du coup l'idée que la voie de l'amour ne peut réussir pour un dirigeant politique ? Elle choisit à ce moment-là la voie de la haine en oubliant que cette voie échoue tout aussi sûrement que la voie de l'amour. Et donc, je crois que sa déchéance, s'il faut lui donner un sens, c'est qu'elle incarne l'échec de toute tentative humaine de gouvernance, même chez celui qui semblait le plus prometteur. Il y a un Kant, un philosophe que tu connais, qui dit que c'est vraiment le problème insoluble de l'humanité. L'homme est un animal, dit Kant, qui a besoin d'un maître pour être gouverné. On est des êtres pulsionnels et on a besoin d'un maître au-dessus de nous pour nous gouverner. Mais ce maître, on va le trouver où ? Ben, si on le trouve dans l'humanité, lui-même, il a des pulsions. Donc lui-même, qui va le gouverner ? Kant dit que trouver l'homme capable de les gouverner tous, pour reprendre une formule du Seigneur des Anneaux, c'est quasi impossible. Il faudrait un miracle. Il dit que le bois dont est fait la nature humaine, il est tellement courbe, il est tellement de mauvaise qualité qu'on ne trouvera probablement pas un homme capable d'assumer ce rôle. Pendant un certain nombre de saisons, nous avons pensé que Daenerys était celle qui pouvait résoudre ce problème politique qui est celui de trouver l'homme capable de diriger les autres hommes. Et en fait, elle échoue à la fin. Et on voit du coup, tristement, que le problème politique ne sera jamais résolu. Voilà.
Ah, mais écoute, c'est très bien parce que du coup, là, tu vois, j'ai mon conducteur sous la main et je suis ravi parce que j'allais te faire parler de Machiavel, tu en as parlé. J'allais te faire parler de Kant, tu en as parlé. Je rappelle que Game of Thrones est la série la plus étudiée dans le monde, dans les universités, notamment aux États-Unis. Et voilà, tu as des avis qui concordent avec ce que me disait Sven Nordtolin, qui a cité le même passage que Machiavel. Donc, je suis ravi. Moi, je ne peux pas que trop vous conseiller aussi de lire Shakespeare puisque cette fameuse Daenerys me fait beaucoup penser à une certaine Lady Macbeth, Cersei également aussi, mais il y a énormément de Shakespeare dans Game of Thrones, notamment dans cette prochaine scène qu'on va écouter avec Daenerys qui va plus avant dans le mal de vivre, c'est le moins qu'on puisse dire, et Tyrion qui essaye de la raisonner. C'est donc une scène qui arrive juste après la mort donc, de Missandei, avec justement une lumière et un maquillage terrible sur Daenerys. On écoute et puis on continue de parler Daenerys juste après.
Il connaît la vérité sur John.
C'est exact.
Vous la lui avez dite. Vous l'avez apprise de Sansa, qui elle-même l'a apprise de John, bien que je l'ai suppliée de ne pas lui en parler. Je vous l'ai dit. Il m'a trahi.
Heureusement que Sansa m'en a parlé. Je suis votre main. Je dois être informé de tout danger qui vous menace.
Et Varys ?
Votre maître des chuchoteurs doit tout savoir aussi.
Vous lui en avez parlé en premier, sans rien me dire, sans me demander la permission.
C'était une erreur, Majesté.
Pourquoi croyez-vous que Sansa vous l'a dit ? Que croyez-vous qu'elle espérait y gagner ?
Elle me fait confiance !
Oui, elle vous fait confiance. Et elle vous a fait confiance pour divulguer des secrets susceptibles de nuire à votre reine. Et vous ne l'avez pas déçue.
Si j'ai failli à ma mission, ma reine, pardonnez-moi. Nos intentions étaient bonnes. Nous voulions la même chose que vous, un monde meilleur. Nous le voulions tous. Varys, autant que n'importe qui d'autre. Mais ça n'a plus d'importance.
Ça n'a plus d'importance.
Voilà. Alors, effectivement, des philosophes, mais c'est Game of Thrones, une série également très shakespearienne. Est-ce que tu as retrouvé... Moi, je l'ai retrouvé personnellement, mais du coup, peut-être que je vois le verre beaucoup trop à moitié plein, dans justement ces dialogues, la force de ces personnages. Voilà, le Cersei, on en parlait tout à l'heure, qui à la fin, effectivement, change complètement de ce qu'on aurait pu penser d'elle, devient faible, d'ailleurs, comme des personnages shakespeariens. Voilà, j'ai beaucoup pensé au roi Lear, j'ai beaucoup pensé à Macbeth, et j'ai beaucoup pensé à... pour toi, qu'est-ce qui fait que cette série soit justement, au-delà des astres philosophiques, la série la plus étudiée dans le monde, une série sur laquelle énormément de livres sont consacrés, énormément de... Qu'est-ce qui fait pour toi la force, la richesse culturelle de cette série qui attire les philosophes, qui attire les historiens. Historia Magazine en a fait un numéro complet, l'antiquité, la notion d'antiquité, etc. Est-ce que dans cette saison 8, tu as retrouvé justement la force universitaire de cette série ?
Alors, j'ai l'impression que tu as toi-même la clé de la question que tu me poses. Tu me dis qu'est-ce qui fait sa richesse et tu te dis tout de suite qu'elle s'offre à des tonnes de lectures possibles, historiques, philosophiques, scientifiques. J'ai même lu, tu l'as peut-être lu aussi, le Science et Vie qui était consacré.
Tout à fait.
Bon, donc c'est ça, sa richesse, c'est qu'elle elle soutient des discours ou des lectures dans des tas de champs disciplinaires. Et en ce qui concerne la philosophie, puisque c'est le mien de champ, en plus, par rapport aux autres séries que j'apprécie, elle n'est pas restreinte à un domaine d'études. Game of Thrones, a priori, son titre indique qu'il s'agit d'un jeu de pouvoir pour monter sur le trône, on pourrait croire que c'est uniquement une série politique. Et comme on en a parlé, on le voit, c'est une série aussi de philosophie morale. C'est une série qui se positionne sur la question de la liberté, de l'existence de l'âme, de la foi. Enfin, il y a des tonnes de thématiques philosophiques qui sont abordées. C'est ça, sa richesse. C'est son extension, en fait. C'est qu'elle n'est pas restreinte à un domaine de réflexion. Et est-ce que j'ai retrouvé cette richesse dans la saison 8 j'aurais envie de te répondre moins, c'est vrai, mais j'ai trouvé d'autres qualités. Comme tu l'évoquais, par exemple, l'épisode 3 sur la longue nuit, je pense qu'il n'y a aucun épisode de la série entière qui m'a fait cet effet. Alors peut-être je l'ai vu dans les bonnes conditions, hein. J'étais dans le noir intégral, ouais, je l'ai regardé, mais vraiment, quand l'épisode s'est arrêté, je pense que je n'ai pas pu bouger pendant au moins une heure et demie, tellement j'étais choquée. C'était tellement un rythme haletant, c'était extraordinaire.
J'en ai des frissons.
Ouais, mais quelle émotion,
cette émotion. Composition musicale de Ramin Djawadi, formidable,
musique,
extraordinaire.
Mais tout, quoi, vraiment. Donc, peut-être a-t-on perdu un peu en subtilité, en dialogue, c'est vrai. Bon, il y a eu moins de scènes fortes, du point de vue du dialogue, on a moins retrouvé ça, mais on a trouvé autre chose. Voilà, moi, cet épisode-là, aucun ne m'avait produit cet effet. La musique était au rendez-vous, les acteurs étaient au rendez-vous, quoi qu'on en ait pu dire. Enfin, vraiment, c'était visuellement, esthétiquement, c'était sublime.
Je bois tes paroles, voilà. Je suis complètement d'accord. Après, il y a aussi le fait que tu parlais tout à l'heure, justement, de cette fameuse scène avec Tyrion quand il s'exile avec Cersei. Il y a eu une grosse attente autour de cette saison, deux ans, c'est beaucoup, puisqu'on avait déjà peu d'épisodes dans la... Et donc, ces deux ans ont laissé libre cours aux fans, et c'est toute la magie de cette série, ces fameuses fanfictions, d'avoir énormément d'hypothèses, etc. Peut-être que d'ailleurs les fans ont surpassé l'imaginaire des scénaristes, si bien qu'on s'attendait à des choses alors qu'au final sont très bonnes scénaristiquement, mais cette attente, je pense aussi, fait beaucoup de cette déception.
Oui, mais tu te rappelles, peut-être tu l'as vécu aussi, quand à la fin de la saison 5, on a laissé John sur le sol avec une flaque de sang qui coulait de lui.
Jamais, oui, mais jamais je n'aurais cru.
Et on a eu, je ne sais pas combien de temps à attendre, et là, durant ces mois, on se disait, est-il mort, n'est-il pas mort, est-ce qu'il est passé dans son sombre loup, est-ce que...
Enfin, qui du moins n'avaient pas lu les livres.
Voilà, on se disait, qu'est-ce qui va se passer, mais les livres s'arrêtent, non, à ce moment-là, exactement, il me semble.
Alors, pour être honnête, je vais pas dire de mensonge, il me semble que dans les livres, il était dit qu'il revenait, je crois. J'ai un doute.
À confirmer.
Mais... Dites-nous sur Twitter.
L'impression que ça s'arrête là, et que c'est ce qui faisait qu'on était tous dans un état... Je crois qu'on a quand même espéré, voulu, cru qu'il ressusciterait. L'arrivée de Mélisandre était un bon indicateur. Et de fait, dans la saison d'après, il ressuscite. Nous avons donc été gratifiés du scénario que nous espérions à ce moment-là. C'est ce qui ne nous est pas arrivé dans la saison 8.
Tout à fait.
On espérait, alors pour certains, que ce soit Cersei, pour d'autres que ce soit Jon, pour d'autres que ce soit Daenerys. Enfin, chacun... Pour toi, que ça soit Arya, enfin, ou Sansa, je sais pas, on avait. Et là, on a été tous frustrés. Celui qui a parié sur Bran spontanément, s'il avait parié de l'argent, il serait très riche quand même, parce que c'était vraiment pas du tout donné. Et pour revenir à ce que je disais au début, tu vois, quand on en parle ensemble, je me dis, si c'est vrai, c'est super. Eh ben, ils nous ont frustrés. Bah, tant mieux, quoi. C'est-à-dire qu'ils nous ont donné une bonne leçon de vie, là. On voulait John qui ressuscite, il a ressuscité. Et là, on voulait quelque chose, on l'a pas eu. Ben voilà, c'est ça la vie. C'est une bonne leçon de vie. Et chez un philosophe qui s'appelle Pascal, il y a un concept qui s'appelle le divertissement. le divertissement, c'est pas du tout forcément une activité qui nous réjouit, hein. C'est quelque chose qui occupe notre esprit de sorte qu'on n'est pas en train de penser à la mort qui vient. Donc, par exemple, pour mes élèves, je leur dis souvent, là, quand vous faites un DS de maths, c'est pas divertissant au sens ordinaire, mais c'est du divertissement au sens pascalien, parce que pendant que vous faites vos équations, vous n'êtes pas en train de penser que vos cellules dégénèrent et que vous allez mourir. Donc, tout ce qui te détourne de l'idée que tu vas mourir, c'est du divertissement. Nous, on va voir Game of Thrones, c'est une série. On lui demande de nous divertir au sens premier du terme. On lui demande de nous faire passer un bon moment. Et je pense que notre déception, elle vient du fait que Game of Thrones, c'est ce divertissement qui a refusé de nous divertir au sens philosophique. C'est-à-dire que c'est un divertissement au sens ludique, mais qui a refusé de nous divertir au sens philosophique, c'est-à-dire qui a refusé de nous vendre du rêve et qui nous a dit... tes espoirs seront déçus. C'est pour ça que je dis que t'es gentil de penser que mon livre est optimiste, parce que la lecture que je fais de la fin, je dis que la fin est finalement réussie, mais elle est réussie dans un message qui est sombre et plein de terreur. Oui. Plein de terreur. Donc, bon, voilà, ça vient de là, notre émoi, c'est qu'on espérait, comme on avait eu cette joie de ne pas être frustré par la mort de John et de finalement assister à sa résurrection, Et là, on n'a pas eu ce qu'on espérait, quoi.
Le temps nous étant compté, on va lancer une scène. C'est ce fameux discours de Daenerys Targaryen, donc dans ce dernier épisode de la saison, oui, de la saison 8, dans ce final épisode, dans cette fameuse scène, du coup, Tyrion démissionne aussi, mm. And you've started your city, et toi, tu as abandonné une ville. Quand on va revenir, j'aimerais que tu nous évoques, on l'a très très vite un petit peu évoqué tout à l'heure, mais ces métaphores qu'on a beaucoup vues sur Internet avec Anakin Skywalker. Ah oui. Et j'aimerais aussi, puisque je sais qu'on va nous le demander sur Twitter, et si je ne te pose pas la question, on va me taper dessus, ce que tu as... Comment tu as interprété cette dernière scène de la saison 8 qui voit Jon donc marcher, oui, au-delà du mur et Arya en exploratrice, un petit peu d'oral exploratrice, Sansa, voilà. Comment okay. tu as... Voilà. On écoute donc juste cette scène de Daenerys avec Tyrion qui démissionne, entre guillemets, et puis on revient juste après.
Anhan, Rehashis Andate. Gondudo. In Rangame is Hosno and Nomadic Rupa. Nediro Mentiro Hetrika Sabarje Garajeixa. Avitolvio and Nurho Gento Sibrosan. Dario Valerio Valeriat.
It's your brother. You committed treason.
Freed my brother. And you slaughtered a city.
On ne peut pas ne pas penser à Anakin Skywalker dans La Revanche des Sith quand on voit cette fameuse scène. Donc là, on avait en audio, mais avec ses ailes de dragon derrière Daenerys. Ah. Et puis voilà, on pense beaucoup aux Sith, on pense beaucoup à... Tu vois aussi des métaphores avec Anakin Skywalker. Beaucoup l'ont vu. Est-ce que pour toi, on se force à regarder quelque chose qu'on veut trouver ou...
Bon, le point commun que je comprends en t'écoutant parler, c'est qu'effectivement, on assiste à la naissance d'un être extraordinaire au sens littéral. Quand Anakin se réveille en Dark Vador, que le masque s'actionne et que le Dark Vador se relève, c'est une scène qui est très belle à voir d'un côté. Hein. Quand Daenerys, le dragon arrive, effectivement, esthétiquement, c'est très beau aussi, cette femme dragon, cette reine dragon, elle est devenue... Je crois que pour moi, en tout cas, comme ça, spontanément, ça s'arrête là, parce que Anakin, le fait qu'il devienne Dark Vador, alors là, pour le coup, je trouve ça tout à fait annoncé. Je trouve ça annoncé et je trouve que ça répond à quelque chose de compréhensible intellectuellement. Voilà quelqu'un qui a tellement de pouvoir et qui est incapable de sauver sa mère, tu te rappelles, c'est terrible. Quand il se rend au chevet de sa mère, il n'a pas pu empêcher la mort de sa mère.
Dans l'attaque des clones.
Et puis ensuite, il voit en rêve la mort de Padmé, et il a fait la promesse sur la tombe de sa mère, il a été faible, il ne le sera plus jamais. Il a perdu celle qu'il aimait, ça n'arrivera pas deux fois. Et quand il apprend que Padmé va mourir en rêve, il va voir Yoda, tu t'en rappelles, Yoda lui dit « Bon, écoute, Anakin, c'est ça la vie, il faut apprendre à perdre ce qu'on aime, ça fait partie de l'histoire de la vie ». Et Anakin se refuse et il préfère céder au discours de Palpatine qui lui dit « Si tu veux conjurer la mort, nous on sait faire, viens du côté obscur de la force ». Et il cède à ça, chose qui est, je pense qu'on est nombreux ici, on aurait pu basculer du côté obscur quand la vie nous a réservé des tragédies.
Oh oui.
Voilà, donc Anakin, on comprend que par refus de perdre ce qu'il aime, il en vienne à basculer du côté obscur de la force. Bon, ce qui est paradoxal, c'est que c'est en basculant du côté obscur de la force qu'il précipite la mort de Padmé. Mais Daenerys, donc, je persiste à penser qu'il n'y a pas du tout, moi, mais ça n'est que mon opinion, il n'y a pas d'explication autre celle dont on en a parlé sur un plan politique qui montre l'échec donc, de toute gouvernance humaine. Tyrion, en revanche, dans cette scène, m'intéresse plus, parce que le discours qu'elle fait, elle, devant les Dothraki, c'est un discours qu'on a déjà entendu plein de fois, hein, elle veut briser la roue, elle veut apporter la liberté, bon... Cet épisode fait totalement l'économie sur comment elle a vécu ce qu'elle a fait. Hein, tu remarques ?
Tout à fait.
C'est quand même assez hallucinant.
Dans un déni total, peut-être.
Ouais, bon, c'est fou, quoi. Et Tyrion, à ce moment-là, démissionne. Moi, ce qui m'a pas plu, si tu veux, c'est que quelques instants après, il reçoit la visite de Jon qui lui dit faut tuer Daenerys. À titre personnel. Ben dans ce cas-là, fais-le, quoi. Fais-le toi. Pourquoi tu choisis Jon ? Non, il était à côté d'elle, là. Et il y a quelque chose de lâche, je trouve, chez Tyrion. Il démissionne, il jette le truc par terre. Et puis, pour après aller dire à Jon, tu peux aller la tuer, s'il te plaît. Bon, moi, j'ai pas trop aimé. Alors que j'avais une estime terrible pour Tyrion, vraiment, je l'aime beaucoup, ce personnage. Mais là, je.
Remettons dans le contexte qu'il vient aussi de découvrir son frère et sa sœur, pour lequel il avait un amour vache, on va dire, enseveli.
D'ailleurs, la scène d'adieu avec Jaime, alors ça, c'était vraiment une scène poignante.
Jaime, d'ailleurs, Jaime n'est pas quelqu'un forcément qui avait aimé.
Ah oui.
Tu m'as fait aimer Jaime.
Oui.
Tu l'aimes beaucoup.
Oui.
Ça se sent dans l'écriture.
Ouais,
voilà, je le dis parce que
la scène où ils se séparent tous les deux est très belle. Dans la tente avant qu'il libère son frère, c'est vraiment une scène, je crois, très réussie d'adieu. Et donc, tu évoquais la fin. La victoire apparente des
Stark. Alors peut-être juste avant, on va lancer, comme le temps nous est compté, on va lancer quand même une dernière scène qui est, tu en parlais tout à l'heure, c'est ton épisode préféré de cette saison-là, c'est la scène que j'appellerais de Not Today entre Arya et Mélisandre. Voilà, puisque je ne pouvais pas ne pas évoquer Arya, et comme ça quand on revient rapidement, je te demanderai d'évoquer ce que tu penses d'Arya dans cette saison 8 et justement cette scène épilogue de cette saison 8. Donc cette fameuse scène Not Today d'Arya et de Mélisandre, on revient juste après.
And here we are. At the end of the world. You said I'd shut many eyes forever. You were right about that too.
Brown eyes. Green eyes. And blue eyes. What do we say to the God of Death?
Not today.
Voilà. Arya, qu'est-ce que je l'aime. Ma petite sœur fictive. Rapidement, du coup, Arya, sur cette saison 8 et sur les problématiques réglées.
Ok, alors là, il y a une cohérence absolue, pour le coup, hein, pour tous ceux qui ont dénoncé les incohérences de la série. C'était annoncé. Hein, on a tous... Enfin, voilà, on se rappelle cet épisode où Mélisandre, regardant ses yeux, nous annonçait déjà à l'avance ce qu'allait faire Arya et qu'elle allait tuer le roi de la nuit. Ça, c'était plutôt pas mal. Tu sais qu'on a reproché à la série, au début, d'être misogyne, puis de réserver un sort aux femmes qui n'étaient pas super. Puis après, ça a été l'empowerment des femmes. Cersei au pouvoir, ses rivales étaient des femmes. Puis là, dans cette saison... les femmes, finalement, se sont révélées aussi décevantes que les hommes, sauf une, Arya. Arya, elle, vraiment, j'ai trouvé ça super que le prince qui fut promis, ça soit Arya. On attendait qui était le prince qui fut promis, selon la prophétie, et finalement, c'était Arya. Ça, vraiment, quelle bonne surprise. Certains ont dit... tout ça pour ça, finalement, il fallait pas grand-chose pour le tuer. Bon, il fallait quand même tout cet entraînement qu'Arya a suivi, et ça, c'était extraordinaire. C'est un personnage, Arya, que j'aime beaucoup, qui est très sartrien, qui incarne une liberté, la possibilité de se définir soi-même.
Il est très sartrien, tu as raison.
Indépendamment de son identité sexuelle, par exemple, ou ce que Sartre appelle la situation, c'est-à-dire nos conditions de vie. Elle est la fille de Lord Stark, elle est promise à être une lady, et elle dit « ce n'est pas moi ». Elle refuse une assignation à une identité, elle refuse d'être mise dans une case. Elle va se construire, elle va se définir, elle se définira comme elle souhaitera se définir. C'est un personnage vraiment qui fait du bien. C'est un personnage qui nous invite à construire notre vie. Magnifique personnage, et c'est celui qui, à la fin... Comme elle l'avait d'ailleurs annoncé à l'actrice Lady Cigogne, tu sais, dans la...
Oui.
Elle lui avait dit « Moi, un jour, j'aimerais bien partir à l'ouest de Westeros. » Et elle a de la cohérence, là aussi, dans ses désirs. Elle part là où personne n'est jamais allé. Cette espèce d'inconnu, c'est aussi une certaine métaphore de la liberté. Donc vraiment, ce personnage est sublime.
Avec un plan qui rappelle beaucoup sur le bateau, qui rappelle beaucoup pour moi un des meilleurs épilogues de la série, qui est cet épilogue de la saison 4, The Children, avec où elle court sur le bateau et où ça se termine sur... Voilà.
Ah oui.
Elle commence à avoir un peu de liberté individuelle là, et là complètement... Enfin, moi j'aime beaucoup cette scène-là. Rapidement, avant qu'on se quitte, parce que le temps nous est compté, comment analyses-tu cet épilogue, du coup, cette dernière scène de cette saison 8 avec...
Oui, alors, oui, pour les... Donc, moi certains y ont vu, et je comprends qu'on puisse y voir une victoire des Stark, eux qui avaient été tellement malmenés dans la série. On avait démarré chez les Stark, puis ils se sont fait décimer, maltraiter, etc. Et à la fin, en nombre et par leur situation, ils semblent être ceux qui ont gagné. Bran est roi, mais comme on l'a dit déjà... Bran n'est plus un Stark, selon moi. Arya, ça, pour le coup, bravo. Sansa, reine du Nord. Alors, si tu as remarqué, les derniers mots de la série, ils sont pour Sansa. Les derniers, tout derniers mots de la série, c'est reine du Nord.
Queen of the North.
C'est elle. Elle a gagné, d'une certaine manière. Elle a gagné, c'est elle la vraie gagnante. Sauf que, à titre personnel, je trouve que Sansa... personnage que j'avais d'abord détesté, puis que j'ai aimé, parce que bravo quand même ce qu'elle a traversé. Et cette intelligence qu'elle a développée, qu'elle sauve Jon dans la bataille des bâtards, bravo Sansa. Mais la dernière saison, pas terrible, et à la fin.
Cette scène avec Littlefinger, néanmoins.
Oui, ça c'était bien, avec Arya, là, extraordinaire. Mais, je sais pas si tu seras d'accord, c'est mon opinion, celle qui monte sur le trône, à la fin, pour moi, le trône du Nord, qu'elle vole à son frère quand même, indirect. Il devient roi, direct, elle ampute son royaume. C'est Sansa Lannister pour moi. C'est la victoire des Lannister à travers Sansa. Elle n'a pas grand chose d'une Stark.
Elle le dit, Sansa, d'ailleurs, dans cette saison-là. Elle dit, j'ai beaucoup appris avec Cersei.
Voilà, et elle a cette robe où elle a mis les armoiries Stark et les armoiries Tully, et elle monte sur le trône. Moi, personnellement, je vois la fille de Cersei. Donc, c'est pas une Stark non plus, selon moi. Jon, pour finir sur lui, et on l'envoie au-delà du mur. Très bien. John, il est devenu le régicide quand même. L'homme qui a incarné une certaine morale, on n'a pas eu le temps de développer une morale qu'ancienne. Cette morale, cette morale interdit le meurtre, quelles que soient les circonstances. Je n'ai pas le temps de l'expliquer, mais vraiment, quand John, c'est un qu'ancien, il le dit lui-même. Il a fait cet acte, et pourtant il le dit à Tyrion, il dit « ce n'est pas juste, tu crois qu'on a bien fait ?» Et Tyrion, à vous, lui aussi, hein. Repose-moi la question dans 10 ans, parce qu'il n'est pas tout à fait convaincu. Jon a renié ses valeurs de Stark, comme Ned Stark avait lui-même renié ses valeurs de Stark en acceptant de s'avouer, de dire qu'il était un traître alors qu'il ne l'était pas, pour épargner ses filles. Comme Robb Stark avait lui-même trahi ses valeurs de Stark en trahissant la parole qu'il avait donnée aux Frey. Et on voit qu'on avait trois personnages Stark, qu'anciens, avec une identité forte sur le plan moral, les trois ont trahi leurs principes philosophiques. Cette trahison les a amenés à la mort pour Ned et pour Robb, et à une forme de déchéance pour Jon. Et quand il est envoyé au mur, bien sûr qu'on peut se réjouir pour lui, parce qu'il a le Nord en lui, comme lui a dit Tormund, et on se dit « c'est bien ». Mais tu vois, il reste même pas à la garde de nuit. Il part dans le Nord. La punition, c'était pas va dans. Il outrepasse la punition. Ce que Bran a dit, c'est tu dois, et il s'en va. Et ça, encore une fois, c'est une trahison des principes moraux de Jon. Donc pour moi, là aussi, ce personnage, il y a une déchéance à la fin. Il est régicide quand même. C'est pas et on voit bien, c'est pas du tout, c'est pas sa nature. Donc cette fin, qui est une prétendue victoire des Stark, pour moi, cache une défaite terrible qui va dans la philosophie générale de la saga, qu'il ne faut rien espérer.
Vous l'avez compris, Marianne Chaillan est passionnée et passionnante. On a réussi donc à évoquer Sartre avec Arya Kant, à présent avec Jon Snow. Voilà, tous ces grands philosophes, vous les retrouvez évidemment dans ce livre que je ne peux que trop vous conseiller, Une fin sombre et pleine de terreur aux éditions des Équateurs, qui est paru le 13 novembre 2019, une semaine avant le mien, mais folle histoire du cinéma, où vous retrouvez aussi un chapitre autour de Game of Thrones. De toute façon, je pense que nous auront l'occasion de nous revoir sur plein d'autres podcasts. Je vous invite aussi, si vous avez aimé cette discussion avec Marianne, d'ailleurs regarder, puisque Marianne est habituée des plateaux, et à juste titre d'ailleurs, puisque ce qu'elle dit est passionnant. Je vous invite à aller regarder l'émission La Grande Librairie, où c'est assez passionnant également ce que tu dis. Voilà, j'ai regardé cette nuit, donc c'est pour ça que je dis cela également chez nos amis de TMC. Voilà, et je sais que tu pars tout à l'heure enregistrer sur France Inter l'émission d'Antoine Decaune, qui donc sera disponible en podcast au moment de la diffusion de cette émission. Donc si vous voulez aller plus avant, il y a le livre et il y a tout un tas de podcast. Merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui dans Entourage. Tes réseaux @MarianneChaillan. Vous n'hésitez pas à lui dire ce que vous avez pensé de ce livre ou de ce qu'elle vient de dire pendant l'émission. Hashtag Entourage avec un S, @BetaSérie, #BetaSérie la radio. Je remercie Mathilde Dandeux qui a préparé cette émission avec moi. Je remercie au son et à la technique Anthony. Je remercie Rémi qui gère BetaSérie. On va se quitter avec Ramin Djawadi, qui est donc le compositeur de Game of Thrones, un compositeur multi-récompensé. Je ne peux que trop vous inviter, il va repasser en France d'ailleurs l'an prochain normalement, à voir si vous le pouvez évidemment, ces fameux concerts symphoniques de Ramin Djawadi à l'Accor Hotel Arena notamment, avec des diffusions de scènes de la série derrière. C'est probablement les moments musicaux et sériphiles les plus forts de ma vie il y a 2 ans, et je pense qu'il y aura une grande tournée d'adieu. En tout cas, en attendant ce fameux spin-off de Game of Thrones annoncé par HBO pour 2022, nouvelle fraîche, voilà, ce sera pour 2022, donc encore 2 ans d'attente, mais au point où on en est. Voilà. Merci à Marianne Chaillan. Je rappelle donc Game of Thrones, une fin sombre et pleine de terreur aux éditions des Équateurs. On se quitte donc avec Ramin Djawadi, Les pluies de Castamir, The Rains of Castamir. Je vous retrouve très très vite avec d'autres programmations. J'étais ravi de pouvoir parler de Game of Thrones. On va parler de Queer as Folk dans très peu de temps dans Entourage, mais ça je vous l'annoncerai sur les réseaux dans pas longtemps. On se quitte donc en douceur avec Ramin Djawadi. And who are you, the proud lord said, that I must bow so low? Only a cat of a different coat, that's all the truth I know. In a coat of gold or a coat of red, a lion still has claws. Mine are long and sharp, my lord, as long and sharp as yours. And so he spoke, and so he spoke, that Lord of Castamir. But now the rains weep o'er his hall, and not a soul to hear. Thank you.
Entourage, présenté par Kevin Elarbi. Une bulle d'intimité sur Beta Série, la radio.